BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Savoie, à Chambéry, chez Alpina. La marque agroalimentaire spécialiste des pâtes et des creusets veut aller plus loin dans sa bascule climatique. On va parler de matières premières agricoles, d'énergie et de protéines végétales. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons de nos vacances dans la deuxième partie de l'émission. Ça approche, ça ne vous a pas échappé. Mais comment se faire plaisir sans nuire à la planète? Comment continuer à voyager sans faire flamber les émissions de CO2 et épuiser nos ressources? On en parlera avec deux chefs d'entreprise du secteur touristique qui ont transformé leur modèle d'affaires. Jérôme Pasquier de Village Club du Soleil et Geoffrey Laville du groupe Magora. BFM Climat, on y va. Et on part donc aujourd'hui, je vous le disais, à Chambéry, chez la marque agroalimentaire Alpina, spécialiste des pâtes et des creusets en Savoie. Alpina, vous allez le voir, a de nombreux défis à relever pour avancer dans sa bascule climatique, décarboner les matières agricoles, décarboner son énergie et végétaliser nos assiettes. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes d'Alpina.
Allez, aujourd'hui, direction la Savoie, chez Alpina, le plus ancien semoulier pastis de France. L'entreprise veut conjuguer tradition et transition. Alors, agriculture, alimentation, énergie, voilà ces trois défis majeurs dont ils vont vous parler pour réduire son empreinte carbone. Et je vous y emmène tout de suite.
Notre premier défi, il concerne l'amont agricole. Chez nous, Alpina, par exemple, c'est 60% de nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'agriculture et de la production agricole de notre matière première, qui est le blé dur. Mais l'agriculture, c'est aussi potentiellement la solution. Parce qu'on sait que l'agriculture permet, par exemple, de développer la biodiversité ou être un puits de carbone. On sait que les prairies permanentes, c'est formidable pour ça. Évidemment, il reste beaucoup à faire parce que notre Graal, c'est l'agriculture de régénération. Et l'agriculture de régénération, c'est une agriculture qui est non émissive et qui favorise la biodiversité et la vie dans les sols. Et là-dessus, on a beaucoup d'enjeux. D'abord parce que le blé dur que vous voyez ici, c'est une céréale qui est assez capricieuse, qui est assez gourmande en engrais. Et donc, on doit trouver des solutions sur la recherche variétale et sur les pratiques dans les champs. Et ça, c'est pas évident parce que, d'abord, dans les exploitations, ben, ils font pas que du blé dur. Il y a des rotations culturales. Et donc, c'est forcément une démarche collective. Et donc, à la fois sur la recherche variétale, sur les pratiques dans les exploitations, pour atteindre le Graal de l'agriculture de régénération.
Bonjour Nicolas Guise.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis dans votre usine à Chambéry. Vous êtes le patron de la marque Alpina et vous nous avez rejoint en plateau aujourd'hui dans BFM Climat pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis, notamment celui-ci de l'agriculture régénérative. Et c'est Céline Corpel du Chiffre Project qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Céline.
Bonjour Thomas.
Merci d'être là. On rentre dans le vif du sujet, Céline. Comment est-ce que vous pouvez aider Nicolas à avancer vers une agriculture régénérative? Il l'a expliqué, ça recoupe beaucoup de défis. Comment il peut atteindre ce Graal, comme le dit Nicolas?
Bah déjà, c'est une très bonne question. C'est une très bonne. J'ai envie de lui dire de continuer comme ça, parce que se poser la question de l'origine des produits qu'on transforme dans son usine, et Alpina a la chance de posséder son moulin, donc c'est déjà un premier bon point. Et ensuite, tout ce qui permettra d'encourager et de valoriser chez les agriculteurs les bonnes pratiques va dans le bon sens. L'agriculture, par définition, impacte les milieux, puisqu'on choisit des espèces particulières qu'on souhaite cultiver. Donc tout ce qui permet de minimiser l'impact de ces pratiques, des pratiques donc du semis, du traitement des plantes, des engrais qu'on apporte, etc., de maximiser la couverture des sols, tout ça va dans le bon sens. Mmh. Donc effectivement, le blé dur, c'est une céréale qui est gourmande en engrais. Et donc, on sait qu'en grande culture, un des postes d'émission de gaz à effet de serre, c'est la consommation d'engrais minéral. Mm-hmm. Donc, optimiser encore plus les doses d'azote, etc. Peut-être se poser la question de l'exigence en taux de protéines pour ces plantes, puisque le blé dur, pour les industriels, pour la transformation, pour que les pâtes qu'on fait cuire ensuite chez nous se tiennent, etc., dans les casseroles, on exige des agriculteurs un taux de protéines de 14%, il me semble, donc plus que pour le bétan. Donc tout ça, ça implique d'avoir suffisamment d'azote dans le milieu. Donc l'ensemble, ça va dans le bon sens, ça va permettre en plus, effectivement, un ensemble de co-bénéfices sur la biodiversité, ouais, sur la qualité de l'eau, et effectivement, point important, le stockage de carbone, puisque c'est en grande culture qu'il y a le plus grand potentiel de stockage de carbone en France. Mmh. on parlera des prairies peut-être tout à l'heure, mais en tout cas en grande culture, en zone cultivée, c'est là où justement il y a eu un petit peu de perte de matière organique, qu'il y a des gains, un gap à regagner.
Il y a un point aussi dans la transition, vous le dites, vous le shift, et beaucoup de patrons dans l'agroalimentaire en sont bien conscients, une des clés, c'est les moyens financiers. Est-ce que vous êtes, évidemment à destination des agriculteurs, est-ce que vous, chez Alpina, vous êtes capable de mieux rémunérer vos agriculteurs ? Ou est-ce que ça fait sortir votre modèle économique de son équation ?
Non, c'est déjà une réalité. On se pose souvent la question si on doit aller plus loin, mais en tout cas, c'est une réalité. Aujourd'hui, on donne à peu près une cinquantaine d'euros à la tonne de plus de primes pour justement la qualité et ces travaux vers de l'agroécologie. Et en fait, on a des cahiers des charges dans nos filières, les filières Alpina qui existent depuis près de 30 ans, où on travaille sur une amélioration continue des pratiques agricoles. Et récemment, en plus, on a rajouté l'objectif du zéro résidu de pesticides sur nos blés pour pouvoir promettre ça aussi aux consommateurs sur le produit.
Bon, bah ça avance. On retourne sur place avec Philippine pour voir un autre défi. On voit que l'agriculture régénérative, ça avance. Il y a un autre sujet sur lequel vous voulez avancer, c'est décarboner votre énergie.
Tout ça, c'est bien à condition d'avoir une usine plus sobre. L'usine tourne au gaz, à la vapeur et à l'électricité. Alpina veut consommer moins, mieux et intégrer plus d'énergie décarbonée. C'est ce qu'on appelle, vous allez le voir, une transformation en profondeur.
Aujourd'hui, on atteint 80% de décarbonation de nos sources d'énergie. En parallèle, bien entendu, on a travaillé sur la réduction de nos consommations, avec la baisse de la pression de la vapeur, avec la mise en place d'une centrale de traitement d'air et également la réutilisation des chaleurs résiduelles. Avec tous ces efforts combinés, les émissions directes ont été réduites de 60% sur les 10 dernières années. Alors pour aller plus loin, on vise à l'avenir une neutralité carbone sur notre site, avec la poursuite de la transition vers les énergies renouvelables, qui devrait atteindre 95% de notre mix sous l'impulsion de nouveaux opérateurs d'Alkia. Également, la réinjection du reste des chaleurs résiduelles dans le réseau, ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques pour compléter. Donc en synthèse, sobriété, écosystème local et circularité.
Alors Céline, là on voit quand même que Alpina est quand même assez avancée dans la décarbonation de ses process énergétiques. Comment faire les derniers kilomètres, en résumé ?
Effectivement, bravo, 80% de décarbonation, c'est énorme. Tout ce qui va permettre de substituer les énergies aux énergies fossiles d'autres sources d'énergie, c'est à prendre. De ce que je comprends, il y a une origine d'énergie via la biomasse, on a parlé d'Alkia, donc c'est peut-être là le point de vigilance à avoir. Bon, déjà, bravo pour tout ce qui est fait, mais effectivement, dans la perspective d'augmenter cette décarbonation, c'est de bien réfléchir sur le moyen et long terme de la disponibilité en biomasse. Déjà, évidemment, on en parle de sobriété, donc ça, on est d'accord qu'il faut aussi en même temps réduire les consommations d'énergie, mais vraiment réfléchir à un niveau peut-être plus de l'écosystème des entreprises locales pour s'assurer que cette disponibilité en biomasse sera bien, est bien durable et se fait dans des pratiques soutenables.
Alors, il y a bien sûr, c'est très important dans la transition énergétique, la question de la disponibilité. Il y a aussi la question du prix. C'est une question que je pose souvent dans BFM Climat aux dirigeants qui y viennent. Cette énergie décarbonée, est-ce qu'elle vous coûte plus cher ?
Oui, cette énergie décarbonée, elle nous coûte un petit peu plus cher parce que notamment il faut que notre fournisseur d'énergie investisse puisqu'il a l'intention de passer de 80 à 95% d'énergie non fossile. Donc il y a des investissements et on participe par en payant l'énergie un peu à ces investissements sur les 10 prochaines années. Mais à côté de ça, ça nous donne aussi beaucoup de pérennité, le fait de s'affranchir d'énergie fossile.
De souveraineté, oui.
Voilà, de souveraineté.
D'indépendance énergétique, oui.
Exactement.
Donc c'est un choix assumé. Ça peut peser sur le ROI, mais c'est pour la bonne cause.
Oui.
C'est intelligent pour l'avenir de l'entreprise. Allez, on retourne une dernière fois sur le terrain parce que vous avez un dernier défi à relever. Et là, pour le coup, on va parler de quelque chose de culturel, on va dire, de systémique, surtout chez nous en France. Vous voulez végétaliser nos assiettes ?
Il faut aussi plus de végétal dans les assiettes. La protéine animale pèse lourd en CO2. Alpina veut donc aider les consommateurs à rééquilibrer leur alimentation avec des produits végétaux, gourmands bien sûr, et responsables.
Aujourd'hui, on mange trop de protéines animales, 2/3 de notre assiette et seulement 1/3 de protéines végétales. Et du coup, pour la santé et aussi pour la planète, c'est important d'arriver à un équilibre de moitié-moitié. Donc, nous, on fait des belles pâtes et des bonnes pâtes depuis 180 ans. Et nous, notre défi, c'est d'encourager nos clients, à la fois consommateurs et restaurateurs, à travailler des recettes végétales avec des pâtes. Parce que tout le monde aime les pâtes, tous les Français en mangent, et il y en a même qui en mangent deux fois par semaine. Donc nous, notre but, c'est d'amener des recettes, d'amener des bonnes pâtes, différentes formes, pour faire plein de recettes possibles, froides, chaudes, etc. Et d'accompagner ça avec des légumes, etc. Mais pour aller aussi encore plus loin, et consommer plus de protéines végétales, eh bien, comme aujourd'hui, c'est pas toujours simple pour les Français de manger des légumineuses, parce qu'on a perdu l'habitude de les manger, de les préparer, eh bien, nous avons eu un défi, c'était d'intégrer du pois chiche directement dans les pâtes, mais en faisant en sorte qu'elles gardent le goût et la couleur d'une pâte classique. Et tout ceci pour à la fois les restaurants, les cantines scolaires, mais aussi le grand public.
Alors Céline, le mot de la fin là-dessus, comment donner envie aux consommateurs et aux restaurateurs d'aller vers plus de végétal ? C'est ça dont on parle.
Effectivement, substituer une partie des protéines animales par des protéines végétales, c'est une bonne idée pour le climat. Et c'est très bien d'offrir aux consommateurs une offre qui ne change pas trop leurs habitudes, ouais. ce que disait la personne interviewée, parce qu'effectivement, voilà. Les légumineuses, c'est une famille de plantes extraordinaires qui permet de fixer l'azote directement de l'air. Donc, ça permet de diminuer la consommation d'engrais minéraux d'origine fossile, à partir des gaz fossiles. Donc, toute culture de légumineuses est à encourager. Donc, associer les deux, c'est pas mal. Je voudrais apporter quand même une petite nuance sur cette question de la végétalisation, parce qu'on a tendance à toujours à parler de diminution de la consommation de viande, mais sans jamais préciser de quelle viande on parle et de quel mode d'élevage on parle. Et là, vous, les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer pour faire monter en compétence un petit peu le public et le consommateur sur ces sujets. On distingue les élevages de ruminants, donc les bovins, les ovins, et les monogastriques, les poulets, les porcs. Les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Effectivement, les ruminants émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre, sauf qu'en France en particulier, ils sont élevés beaucoup sur des prairies permanentes qui sont un stock de carbone. Stock de carbone qu'on a intérêt à laisser là où il est pour des questions climatiques. Et donc, il y a un compromis à trouver sur la question de la consommation de viande, sur la préservation des externalités positives de certains élevages, et effectivement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc attention à quel type de viande on diminue et par quoi on la substitue. Donc très bien si on la substitue par des légumineuses, si on la substitue par des protéines importées avec des animaux élevés dans des conditions absolument pas soutenables de notre point de vue, ou par de l'alimentation transformée, on n'aura pas gagné d'un point de vue climatique.
Non, c'est assez clair et vous avez eu raison de rappeler ce point-là. Nicolas Guise, pour finir, je trouve que c'est assez malin quand même ce que dit votre collaboratrice, c'est-à-dire que vous faites le changement sans qu'on s'en rende compte. C'est peut-être la meilleure manière d'embarquer les gens finalement.
Absolument. On a même fait des tests auprès des enfants, hein, parce que si vous mettez dans une assiette
si vous arrivez à convaincre
des pâtes
les enfants, là, c'est gagné.
Et des pois chiches à côté, vous savez ce qui reste à la fin du repas, il reste des pois chiches sur le côté. Et quand vous avez ça, les enfants s'en rendent pas compte, ils sont très heureux. Et voilà. Et c'est bon pour leur assiette et c'est bon aussi pour la planète avec de l'azote naturel dans les champs.
Bon pour les enfants dans leur assiette et pour leur avenir. Eh ben merci, voilà, idée à creuser. Merci à tous les deux, Nicolas Guise d'Alpina et Céline Corpel du Chiffre Project. Merci beaucoup d'être venus dans BFM Climat. On a parlé d'agroalimentaire, on va parler de nos vacances maintenant. Et oui, les grandes vacances approchent à grands pas, ça ne vous a pas échappé. On va tâcher aujourd'hui de répondre à cette question dans BFM Climat. Comment continuer à se faire plaisir sans nuire à la planète ? Comment continuer à voyager sans faire flamber les émissions de CO2 et épuiser nos ressources ? On en parle aujourd'hui avec deux dirigeants du secteur touristique qui bousculent leur modèle d'affaires pour les adapter aux limites planétaires. Bonjour Jérôme Pasquier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le président du directoire de l'entreprise Village Club du Soleil. Et avec vous, Geoffrey Lavielle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes le directeur général du groupe Magora. Magora, c'est le groupe qui chapeaute notamment la marque Odalis. C'est peut-être ça qui parlera davantage au grand public. Jérôme Pasquier, je commence avec vous, très concrètement, pour planter le décor. Expliquez-nous la bascule climatique de votre modèle d'affaires. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre entreprise, dans votre stratégie pour intégrer le climat au business ?
D'abord nos implantations. En fait, on a constaté... Alors, Village Club du Soleil avait... il y a 15 ans, 80% de son chiffre d'affaires à la montagne en hiver.
D'accord.
On sait depuis 2010 que, en tout cas, on a conscience depuis 2010 qu'il y a un vrai changement climatique.
Ah,
et donc, la première conséquence, c'est finalement le choix de nos implantations.
Ouais.
Donc, on a eu tout au long de ces 15 dernières années des orientations d'implantations différentes. La première était il y a, en 2010, de choisir de s'implanter que sur des stations à 1800 mètres et qui montent à 2500 mètres.
Okay.
En 2014, ça a été d'aller chercher des implantations bord de mer.
Ouais.
Et puis, en 2017, on a ouvert le premier village de vacances urbain.
D'accord.
Ah oui. Donc, à Marseille.
OK. Et dans, là, Marseille.
Dans Marseille, okay. Ouais, dans le 3e arrondissement de Marseille. D'accord. Et puis là, dernièrement, on a fait l'acquisition du groupe Vacanceol, qui est un groupe de résidences de tourisme, qui nous permet d'avoir plus de sites campagne et mer.
Okay.
Donc, il y a 15 ans, on était 80%
vous avez diversifié.
Hiver, et là, maintenant, 50-50.
Mais intéressant, ouais, vous avez eu la prise de conscience business il y a un moment, en fait.
Il y a un moment, oui. Au début du développement durable, mon prédécesseur avait créé le service du développement durable, qui nous a expliqué qu'il y avait un réchauffement climatique.
Ouais.
On a mis un peu de temps à l'accepter. Mais une fois qu'on l'a accepté, c'est sans équivoque, et donc il fallait s'adapter.
Ouais, alors on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, très intéressant pour démarrer. Même question chez vous, donc chez Magora Audalis, qu'est-ce qui a changé dans votre business ?
Alors un peu de la même manière, on a aussi, nous Audalis, c'était au départ Audalis Vacances, et puis on s'est diversifié donc en développant l'activité Audalis City en appart-hôtel,
Audalis Campus,
Audalis Campus avec des résidences étudiantes, et puis plus récemment donc une marque Happy Senior autour des résidences en fait seniors, là encore au centre-ville, et la dernière acquisition qui a été faite c'était en 2023 avec donc cette fois-ci un business beaucoup plus lié à, on va dire à l'environnement et des vacances en fait à la nature puisqu'on a acquis en fait une chaîne qui s'appelle Flower Camping et qui fait aussi partie du groupe avec plus de 150 en fait campings, ce qui fait qu'on est la première chaîne en fait en termes de nombre de campings franchisés en fait en France.
Intéressant. Donc ouais, enfin vraiment l'un comme l'autre, vous avez vraiment élargi le terrain de jeu, on va dire, pour limiter les risques. Alors après, ce qui est très alors ça déjà c'est des signes importants de bascule du modèle. Quand on rentre un peu dans le détail, le tourisme, j'avais reçu il y a plusieurs mois le patron de Pierre et Vacances qui expliquait ça à Franck Gervais, c'est que en fait le secteur dans lequel vous opérez, c'est vraiment un monde en soi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout à décarboner. L'alimentation, les transports, les infrastructures, l'énergie. On commence par où ?
On commence par l'énergie.
Okay.
C'est le plus simple, c'est le plus bateau.
Ouais. Et c'est ce qui pèse le plus lourd aussi ?
Alors, c'est 40% des émissions, c'est effectivement la production d'eau chaude et le chauffage.
Ouais. Bon, bah alors,
Et suivi de 30% l'alimentation.
Ok.
Et le reste, ça va être le transport des clients, donc mais plutôt de l'indirect, puisque c'est le transport des clients jusqu'au lieu de résidence.
Le scope 3.
Okay. Le fameux scope 3.
Le fameux, mais c'est le plus important, en fait, qui pèse toujours le plus lourd dans les bilans carbone et le plus dur à.
Ouais.
Parce que, comme vous dites, vous n'avez pas la main là-dessus. Non. Et chez vous ? Pareil, énergie
c'est la même chose. Et en plus, l'avantage de démarrer par l'énergie, c'est que non seulement c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Parce qu'en fait, quand on réduit nos émissions, on réduit aussi en fait nos dépenses énergétiques. Et donc, c'est le sujet le plus facile en fait sur lequel embarquer les équipes. Après, on a un autre sujet qui est important, qui est aussi le traitement des déchets. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs que le comportement souvent en fait des clients en vacances peut différer du comportement qu'ils peuvent avoir en fait traditionnellement chez eux. Donc on peut avoir en fait un petit relâchement. Donc en fait, c'est à nous d'être très vigilants en fait là-dessus et de les amener à conserver en fait leurs gestes et avoir toujours à disposition les logiques de recyclage. Mais c'est effectivement les deux postes principaux, c'est ça.
Le vacancier surconsomme. Il va surconsommer de l'eau chaude, il va surconsommer du chauffage, il va surconsommer du buffet.
Ouais.
En général, ce qu'on observe effectivement sur les sites touristiques, c'est qu'on a une surconsommation.
Et donc vous, là, maintenant, vous essayez un petit peu de, sans punir les gens, mais les faire évoluer vers plus de sobriété ou être un peu vigilant, quoi.
Il y a de la sensibilisation. Alors, des vacanciers, des collaborateurs.
Ouais.
Sur l'énergie, nous on a une démarche qui est la démarche ISO 50001, qui est vraiment le management de l'énergie, c'est-à-dire monitorer nos points de dépenses, donc le chauffage, la production d'eau chaude, la cuisine, sur chacun de nos villages. Je peux dire depuis mon siège social si le four de Montgenèvre est allumé ou pas.
Ouais.
Et après de suivre ses consommations, de fixer des objectifs, de former le personnel à l'utilisation de ces matériels-là, et donc de les amener vers plus de sobriété, plus d'économie. C'est pareil pour les vacanciers. Aujourd'hui, on peut monter.
Alors comment vous leur donnez envie ? Parce que vous dites qu'ils se relâchent, ils pensent plus à rien.
On essaie de penser pour eux déjà. Donc, par exemple, sur le chauffage, nous, on a limité le chauffage à 23 degrés. Donc ce qui est déjà bien, hein, 23 oui, degrés, c'est quand même pas mal. Et la climatisation, bah, on l'a limitée à 20 okay. degrés. On peut pas descendre en dessous de 20 degrés. Mm-hmm. Donc ça, c'est des petits gestes en fait, mais qui font que, bah, voilà, on prend des consignes qui vont nous permettre en fait de réduire la consommation. Et après, okay. il y a des outils qu'on peut mettre, mais qui forcément sont parfois un peu coûteux. Mais dans certains appartements, on peut avoir des systèmes où bah, on détecte en fait qu'il y a une présence dans l'appartement. Et donc, bah, le chauffage va fonctionner. S'il n'y a plus de présence, le chauffage, en fait, se coupe automatiquement.
Comme à la maison, quoi. Voilà. Bah, comme vous dites, c'est coûteux, mais ça fonctionne.
Exactement. Sur l'alimentation, on a fait des tests, par exemple, pour décarboner l'alimentation, qui est 30%. Donc, on ne peut pas imposer au client un menu végétarien. Il ne va pas l'accepter. Mmh. Ça va devenir un sujet politique. Ouais. Par contre, on a fait faire par un chef, Alexandra Montagne, un menu végétarien. Qu'on propose à nos clients en leur expliquant que voilà ils peuvent manger décarboné et en leur indiquant mais en leur laissant le choix toujours et puis l'autre sujet ça va être finalement le carbone de l'alimentation c'est le gaspillage c'est ce qu'on jette donc aujourd'hui on peut présenter des buffets anti-gaspi et la démarche va être acceptée par le client ce qui n'aurait pas été le cas il y a 10 ans
et c'est ça que j'allais vous demander à l'un et l'autre est-ce qu'ils acceptent tout ça c'est-à-dire que vous leur demandez pas des sacrifices mais vous leur montrez un peu la voie quelque part. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez des changements dans les comportements?
Oui. Sur le tri des déchets, sur, je vous dis, le buffet anti-gaspi, sur tout un tas de sujets, on voit que les familles sont quand même de plus en plus réceptives. Nous, on a une mascotte qui s'appelle Bizi, qui est une abeille, qu'on utilise dans les clubs enfants pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, ça passe aussi par les enfants.
Ah ben, bien sûr.
Ça peut repasser aussi par les enfants, et on voit que les parents et les enfants sont plus réceptifs. Ouais. Après, ils restent en vacances quand même. Et donc, ils ont envie de se faire plaisir. Mais...
Non, mais il faut trouver les bons mots pour que ça rentre, justement, quoi, pour toucher les gens.
Et c'est vrai que...
Mais pareil, les clients, ils n'ont pas l'impression de se dire « on va me demander de faire des sacrifices ».
Non, parce que si on parlait à l'instant justement en fait de la partie alimentation, quand on travaille par exemple l'offre du petit déjeuner, on va essayer de travailler ça avec des producteurs en fait qui sont locaux. Donc en termes de carbone, finalement, ben on a un impact qui va être plus faible parce que le sourcing va être à côté. Et finalement, le client lui va avoir l'impression aussi de manger quelque chose en fait qui est fait à côté de son lieu de vacances. Donc il n'y a pas ce sentiment. De se dire bah tiens j'ai une prestation qui a diminué en fait c'est juste qu'on a retravaillé finalement notre approche et souvent ils voient presque ça comme un plus parce qu'on n'a pas quelque chose d'industriel
C'est même sur les clients business c'est devenu un prérequis c'est-à-dire quand vous faites de l'événementiel des séminaires des choses comme les grands groupes français qui eux aussi ont des objectifs de RSE vont vous demander des labels vont
que vous demander des...
donc c'est devenu un impératif business de toute manière d'être dans cette ligne-là.
Dans ces offres-là, dans ces alternatives-là.
C'est une demande client.
Nous, on fait partie du groupe Duval, en fait, donc, qui est un gros acteur en fait, dans le domaine de l'immobilier. Qui, effectivement, donc, est assez en avance sur la CSRD, même si elle a été repoussée. Donc, mais nous, on a été vraiment complètement impliqués dedans. Ouais. Et on travaille donc notre trajectoire de décarbonation, en fait. Et donc, ça nous amène vraiment à se reposer sur l'ensemble des sujets. Donc, on est bien sûr sur l'énergie, on est sur les déchets, mais après, on va être, en fait, sur les transports, on va vraiment rentrer dans chaque sujet.
Ouais, il faut repenser tous les process. Et c'est l'intérêt de cette CSRD, même si, comme vous dites, elle a été un petit peu repoussée au calendrier grec. Toute dernière question, parce qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes. On a beaucoup parlé des clients, et c'est normal, c'est le fameux Scope 3. Mais vous l'évoquiez, vos collaborateurs. Est-ce que, là aussi, est-ce que c'est difficile de les embarquer là-dedans? Est-ce que ça demande beaucoup de formation, beaucoup de montée en compétences ou pas?
En réalité, c'est souvent eux les premiers qui ont envie d'avancer. Okay. Alors on a comme dans nos clients, hein, on a les early adopteurs, ceux qui démarrent tout de suite, hein, qui ont envie de prendre le sujet. La question, c'est comment on généralise, parce qu'en fait des initiatives, on peut en avoir plein. Comment on développe? Nous, on a donc 250 résidences. Donc le sujet, c'est de se trouver effectivement les bons partenaires. Donc on parlait des abeilles, un de nos collaborateurs en fait était apiculteur et elle a trouvé un lien avec une association qui s'appelle en fait les Dorloteurs d'abeilles. D'accord. Et donc on a généralisé ça effectivement sur une cinquantaine de nos résidences. Donc souvent, on a des gens qui ont envie. Après, c'est comment on crée cette culture dans l'entreprise de remonter les projets et puis de faire que on les accompagne en fait pour développer ça.
Et chez vous?
La clé, c'est la formation. Enfin, la clé, c'est
Mais ils sont OK pour être formés, pour aller là-dedans?
Ouais. Alors nous, la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 30 ans. Avec beaucoup de vingtenaires.
Ouais.
Et donc, la plupart sont open sur cette démarche-là. Après il faut les former aux bons gestes, ils sont preneurs, ils sont complètement preneurs, et Et ça donne un sens, à ce qu'ils font,
ouais.
Je pense. Et donc ils sont plutôt proactifs. Ouais.
Bon.
Voire même des fois on va pas assez vite pour eux.
Bon, bah, c'est très bien. Et ben voilà, faut suivre la jeunesse, qu'on se mette à la page. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant pour vos conseils et vos partages d'expérience. Jérôme Pasquet de Village Club du Soleil et Geoffrey Lavielle du groupe Magora. Merci encore et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans BFM Climat. Merci aussi, comme toujours, à la Convention des entreprises pour le climat pour sa participation à l'élaboration de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de BFM Climat. Et d'ici là, on garde contact, bien sûr, sur notre appli, sur Internet, nos réseaux sociaux, nos podcasts. On est partout. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.